Salut tout le monde, bienvenue sur Le Trichot, saison 2. Alors oui, je sais, on vous a manqué, on est parti un petit moment, mais nous sommes de retour, on l'espère pour plein d'autres épisodes, plein d'autres saisons, et autour de la table aujourd'hui, on a encore une équipe de choc avec honneur aux dames, Madame Jeanne Leher. Salut Jeanne, comment ça va? Je devais commencer parce que je vois que tu étais en train de manger une gaufre.
Ouais, mais j'ai fini juste à temps. Bonjour tout le monde, je suis contente qu'on puisse enfin reprendre avec cette saison 2 et je pense qu'on aura plein de belles choses à vous raconter.
On enchaîne avec Amandine. Salut Amandine, comment ça va?
Salut, salut. Écoutez, ça va nickel. Je suis ravie d'avoir terminé la saison 1 avec vous et d'enchaîner directement sur la saison 2 avec plein de nouveautés.
On enchaîne avec quelqu'un qui peut maintenant accrocher une petite étoile sur son polo. C'est monsieur Julien Pousson. Salut Julien, comment ça va?
Salut à tous. Ça va bien. Très heureux de vous retrouver pour cette saison 2 et je sens qu'on va bien s'amuser.
Et en parlant d'amusement, justement, on retrouve le plus rigolo de la bande, celui que vous préférez, celui qui a été ovationné au cours des épisodes. C'est monsieur Alexandre Saint-Jean. Salut Alex, comment ça va?
Je suis un peu disparu dernièrement, beaucoup de choses dans ma vie. J'ai pété trop fort la victoire de Sam Laidlaw. Ça doit être ça.
Et celle de Dorian.
Ah si, aussi, surtout celle de Dorian.
Allez, donc on avait fait une petite coupure, comme l'a dit Alex, on est tous des petites choses à gauche, à droite, avec des courses pour certains, des championnats du monde pour d'autres, et du boulot pour certains, ou des vacances. Donc maintenant, on est de retour, on est bien de retour, j'espère que vous serez au rendez-vous. Comme d'habitude, comme pour la saison 1, si vous voulez nous aider et contribuer, que le Trichot vous plaît, rendez-vous sur Buy Me a Coffee, le Trichot. Et vous pouvez nous verser 1 euro, 10 euros, 50 euros, 200 euros, comme vous voulez en fait. C'est à vous de voir, mais ça nous aide justement à mettre en place un petit peu ce Trichot version 2. Et on commence avec une nouvelle section des actualités qu'on fait sous forme de Up and Down. Le Trichot. Et on attaque tout de suite les up and down de Jeanne. Alors Jeanne, c'est quoi tes up and down de ces quelques semaines, hein? On ne va pas remonter trop loin dans le temps, mais de ces quelques semaines.
Alors je vais commencer par le down pour finir sur une meilleure note. C'était il y a quelques temps déjà, bientôt un mois je pense. Donc ça date un peu, mais ça reste d'actualité. En fait, je ne sais pas si vous avez regardé sur la dernière World Cup de l'année qu'il y a eu à Viña del Mar au Chili. Chez les femmes, ça a été un peu la bérésina dans le sens où 4 femmes dans le top 5 ont été disqualifiées, dont Mathilde Gauthier. Alors pour la faire courte, elles n'ont pas pris le bon parcours à pied. Et pour leur défense, il n'y avait aucun cône, aucun bénévole et, pour leur montrer la voie. Et à savoir que lors du briefing, le parcours n'était pas montré précisément, donc elles ne pouvaient pas savoir où aller. Sauf si elles avaient regardé la course de la semaine passée au Pan American Games où il y a eu la même erreur, sauf que, à savoir que lors des Pan American Games, enfin jeux panaméricains, personne n'a été disqualifié. C'était chez la course des hommes, il me semble. Je pense que Alex pourra confirmer. Mais bref, donc déjà cette histoire c'est pas très fun parce qu'il y a eu 4 filles disqualifiées. Et le problème, enfin, ça dépend, ça n'est pas un problème pour d'autres, mais c'est que donc cette World Cup donnait des points, que ce soit pour le ranking olympique, mais aussi le ranking général. Et en ce moment, aux États-Unis, le ranking général et olympique, mais surtout général, c'est vraiment, tous les points comptent. Et là, en l'occurrence, c'était Cathy Zafares, l'américaine que tout connaît, qui a gagné, enfin, qui a franchi la ligne première. Et Gwen Jorgensen avait fini troisième. Sauf qu'avec la disqualification de 4 femmes, Gwen est passée première, une autre américaine, Gina Sereno, est passée troisième. Donc, tout ce petit monde a raflé plein de points, tandis que Cathy, pas du tout. Donc, Gwen Jorgensen est passée devant Cathy au ranking World Triathlon, ce qui lui offre la possibilité de courir sur les premières courses de la saison, dont la WTCS d'Abu Dhabi. Et ça, c'est pas très bon pour Cathy.
Ouais, en fait, ce qui est important, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chez les Américains, c'est les 5 premières ou premiers au ranking olympique qui ont accès sur les WTCS. Donc, ça veut dire que Cathy Zafares, en sortant de ce ranking, de ces 5 premières sur le ranking olympique, a très, très peu de chances de rentrer sur les WTCS de la saison 2024 et donc de se qualifier au jeu. Donc, cette course-là était super importante, il y avait un gros enjeu.
Ouais, et le truc qui est assez hallucinant, c'est quand même la fédération américaine qui fait une plainte contre une autre athlète américaine et ainsi de suite. Dans le sens que, point de vue atmosphère et tout, dans un processus olympique compliqué, c'est pas top.
Après, juste pour reparler de Cathy hein, très vite fait, elle est donc septième pour l'instant au triathlon, enfin ranking général. Mais sachant que Taylor Nib va sans doute faire l'impasse sur les premières courses et Gina Sereno avec son emploi du temps de ministre, parce que cette femme construit des fusées pour la NASA, il me semble, c'est pas dit qu'elles aillent à Abu Dhabi, ce qui pourrait permettre à Cathy Zafares de prendre le départ d'Abu Dhabi.
Alors, ton up maintenant, Jeanne?
Et pour moi, c'est beaucoup plus récent. Pour le coup, c'était les championnats d'Europe de cross qui a eu dimanche. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais moi, oui. Enfin, pas toutes les courses, parce qu'il y a pas à se manger, mais bon, bref. Il y avait quelques triathlètes qui étaient au départ. Chez les U20, donc les juniors, il y avait notamment la pépite suédoise Tilda Manson, qui a fini 18e. Et il y avait une autre triathlète, la jeune lycéenne Lali Porcentru. On a aussi vu l'Allemande Lisa Tersch chez les élites prendre la 21e place. Et donc, pour faire un petit résumé de ces courses, au premier abord, je me dis que Tilda à 1,35 de la tête, c'est un peu décevant vu ses qualités pédestres. Mais que ça soit elle ou Lisa, à vrai dire, c'est un peu dur de savoir si c'est des bonnes performances ou pas, sachant qu'on ne sait pas où elles en sont dans leur prépa. Mais par contre, la grosse performance triathlétique du mois du week-end, c'est celle du Britannique Hugo Milner. Il a fait une course aux avant-postes quasi tout du long avant que Jan Schrub vive la Moselle, le décroche pour aller prendre la victoire. Donc, il se fait malheureusement rattraper sur la dernière ligne droite et finit avec la médaille au chocolat. Pour revenir sur son côté triathlète, au final, donc il est nouveau sur le circuit des World Cup notamment, mais il a déjà eu une médaille d'or à Miyazaki. Donc, il devrait sans doute bientôt faire une apparition sur les WTCS. Et qui sait, avec les choix de la fédéré britannique, si jamais ils ont trois dossards, peut-être qu'ils pourraient avoir sa chance, vu comment ils courent super vite.
Ah, moi, j'irais plus loin, là. Je dirais même, est-ce qu'il peut gagner une médaille aux Jeux Olympiques?
Oui, mais je pense que ça sera plus difficile de se qualifier avant même que trois.
Ah non, mais non. Ouais, pour moi, c'est un prétendant pour une médaille olympique. Je l'annonce tout de suite.
Oui,
Elle croit à des médailles olympiques, hein. Enfin, en individuel.
Ouais, on a individuel.
Il y a des prétendants, il en a 15, Alex.
Non, mais honnêtement, tu sais, on en avait parlé de lui l'année dernière et je m'attendais à un développement un peu plus rapide. Mais clairement, en course à pied, il est dans une autre planète. Je pense qu'il battrait même Alexis. Puis les Britanniques, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de transformer des coureurs en nageurs. Best foot.
Cette progresse est quand même assez rapide. Après, ça dépend déjà si la Fédé britannique va le laisser monter, par exemple, à Abu Dhabi.
Ouais, mais oui.
Allez, on enchaîne sur le up and down cette fois d'Amandine. Donc, à toi de nous dire si tu commences par ton up ou ton down. Amandine, c'est à toi.
Alors, moi, j'ai un up and down. J'ai un deux en un. Donc, je vais commencer par le up. alors, moi, je voulais parler de Benjamin Schoker. Donc, le duathlète, donc tout le monde le sait, ou ceux qui ne le savent pas, en fait, est en lice pour le marathon pour les JO. Et donc, il y avait le marathon de Valence qui a eu lieu dimanche dernier, dimanche 3, je crois, le premier dimanche de décembre. Et donc, en fait, le up, c'est que il a fait les minima. Donc, son temps était de 2h07 et 42 secondes. Et du coup, ça enchaîne sur mon down. C'est que le problème, c'est qu'il y a énormément de densité sur le marathon français. Donc, en fait, il finit cinquième français en faisant les minima, sauf qu'il y a trois dossards, comme pour le triathlon. Donc, en fait, on avait bah là, clairement, sur la course, il y avait mes 10 frères, Nicolas Navarro et Félix Bourg, qui sont bah, du coup tous les trois devant, les trois français. Donc, rien n'est joué encore. Il peut encore se passer enfin, voilà, certaines choses, blessures ou autres. Mais voilà, donc c'est un up and down deux en un. Donc voilà, il a fait les minima, il a fait une super course.
Il leur reste jusqu'à avril hein, pour essayer de refaire une performance qui leur permettrait de se classer parmi les meilleurs Français. Et après, moi, je trouve que ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup de densité en France. C'est une difficulté
Alors non.
pour Benjamin, mais
Alors
c'est
oui,
plutôt une
voilà,
bonne chose.
ouais. C'est pas, voilà, non, c'est pas un problème, mais c'est du point de vue de Benjamin, effectivement, c'est voilà.
Il y a un truc qui est super intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a 8 ans, je pense que la France, à Rio, avait envoyé aucune personne, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, en marathon. Peut-être que j'ai une connerie, etc. Mais il y avait eu tout un discours sur face aux critères trop difficiles, qu'on n'envoyait pas des athlètes et tout. Et en fait, dans plein de nations, ça a déjà été le cas aussi avec le Canada et tout, tous ces critères qui sont ultra difficiles, où on pense qu'on prive les athlètes d'aller aux Jeux Olympiques, mais ils ont quand même un effet où sur plusieurs années, sur le long terme, eh ben, on voit vraiment une progression dans les temps. C'est comme, en tout cas, c'est pas une remarque raciste, etc., mais il n'y a pas si longtemps, un coureur blanc qui faisait en dessous de 2h08, c'était vraiment anodin, en tout cas. Je veux dire, c'était très rare, plutôt, excusez-moi. Après, c'est sûr qu'il y a eu le changement des chaussures et tout, mais on voit que ça va de plus en plus vite. Bon, maintenant, après, il y a les Kenyans qui aiment ça nous sortir 10 contrôles positifs à toutes les semaines et qu'on se demande qui sait vraiment courir et c'est quoi la vraie vitesse, mais en tout cas, c'est autre chose.
Allez, merci Alex pour cette intervention sur le up and down donc d'Amandine. Merci Amandine. Et on passe donc à Julien Pousson. Alors toi, les plus et les moins, les up and down des semaines passées.
Ben moi, ça va être intéressant et je vais commencer par mon up. Alors c'est un up un peu bizarre, vous allez comprendre. C'est à propos de la disparition et du décès de Erika Mateis. Moi, c'est mon up parce qu'en fait, ça me rappelle plein de bons souvenirs et ça me rappelle la personne qu'il était. C'était l'organisateur du Natureman. Il a également travaillé pour Trimag et il a aussi été commentateur. On l'avait croisé en juillet sur la Yota XP avec Julien. Et puis voilà, moi, c'est plein de bons souvenirs. Et puis, c'est une personne qui a apporté énormément de choses au triathlon. Donc voilà, Eric, t'es mon up.
Il y a eu un bel hommage de la part de la population triathlétique en France. Il y a eu pas mal de médias, de personnes qui ont relayé ça, la Ligue aussi, PACA, il me semble. Donc c'est bien, et effectivement, c'était un sacré personnage, et voilà, quelqu'un d'assez positif et qui faisait un peu l'unanimité, et c'est loin d'être le cas pour tout le monde dans le milieu du triathlon, donc quelqu'un qui fait comme ça l'unanimité, c'est beau. Ton down ?
Mon down, c'est, j'ai un peu rigolé, c'est la réintégration des athlètes russes et biélorusses par le CIO. Donc, en fait, ils vont être admis à participer aux Jeux Olympiques sous bannière neutre. Donc, bon, ça, en soi, chacun ses opinions. Mais moi, ce qui m'a fait rigoler, c'est que, du coup, je me suis un petit peu intéressé à cette histoire-là. Sauf que, OK, ils peuvent être réintégrés aux Jeux Olympiques en triathlon, par exemple. Mais encore, faut-il se qualifier. Et donc là, c'était assez marrant parce que la meilleure triathlète russe, elle est classée 517e au ranking olympique. Le meilleur triathlète russe est classé 728e au ranking olympique. Sachant que pour participer au jeu, il faut être classé dans le top 140. Donc en fait, c'est une nouvelle qui n'est pas vraiment une nouvelle. Ça fait un peu effet d'annonce, mais dans les faits, il n'y aura sûrement pas de Russes ou pas de Biélorusses aux Jeux Olympiques, en tout cas à Paris.
Un truc important que le monde a oublié, mais en 2022, la Fédération russe avait été suspendue avant le cas de l'Ukraine, etc., parce qu'il y avait trop de cas de dopage. En tout cas, il y a une longue histoire avec eux. Puis j'ai eu une discussion intéressante avec Thierry Villardi. En fait, il expliquait que les systèmes de qualification dans d'autres sports, c'est pas forcément basé sur des rankings des rankings sur plusieurs mois et tout, et que tu sais, des fois c'est des temps et tout. C'est clair que cette annonce-là d'athlètes russes, en fait, on risque d'en voir pas beaucoup de toute façon, parce que ils ont vraiment été interdits de compétitionner.
Et en plus de ce que j'ai lu, déjà, les sports d'équipe ne peuvent pas. Parce que tous les sports co, c'est pas possible. Et en plus, il faut bien qu'ils n'aient affiché aucun soutien à leur pays pendant la guerre depuis un moment, quoi. Et en plus, qu'ils ne soient pas à l'armée. Or, pour les triathlètes, en tout cas, je sais qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont dans l'armée ou dans les instances nationales, si on peut dire ça comme ça. Donc, dans tous les cas, 140, pas 140, il y en a beaucoup qui passeraient à la trappe juste parce qu'ils sont... soutien de leur pays, que ce soit par l'armée ou directement dans leurs propos.
Bah, on rappellera qu'il n'y a pas longtemps, hein, il y a une athlète russe d'ailleurs qui a été suspendue en France.
Hop.
Donc voilà, licenciée.
Tu penses que je ne voulais pas en parler de ça ? Je veux en parler un peu plus parce que je voulais faire la chronologie de tout, parce que l'aspect de la sanction russe, elle n'est pas problématique face à la Russie, mais elle est très problématique face à World Triathlon.
Allez, bah c'est parti alors, Alex, pour ton up and down des semaines passées. On t'écoute.
En fait, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Commencer justement par l'aspect dopage en triathlon et qu'est-ce qui vient de se passer avec le cas de Valentina Riasova, qui est d'ailleurs une coéquipière de Jeanne. Salut Jeanne. Non mais
calmons-nous.
C'est parce que on la connaît un peu parce que en fait elle a eu des super belles performances en Grand Prix. Alors petite chronologie, c'est là que vous allez commencer à halluciner. En fait, elle a été contrôlée positive en septembre 2021 à Valence après une 11e place assez anodine. Elle était quand même championne européenne en U23 cette année-là. Chose assez inusitée mais classique dans les cas de dopage, il y a toujours une excuse. Fait que l'entourage, ils ont commencé à en fait, ils disent que elle s'est auto-dénoncée parce qu'elle s'est rendue compte que dans un supplément alimentaire comme d'habitude, il y avait une substance interdite. Fait que peut-être oui, on peut comprendre et du coup c'est elle a eu une bonne volonté. Tout ça pour dire que ça a pris un an pour que World Triathlon lui donne finalement une sanction et là hallucinant. Sa sanction, c'est 6 mois, mais entre septembre à mars, juste durant la saison morte. C'est quand même assez sympathique de leur part de faire ça en 2022 et tout. Elle a effectivement fait sa sanction, etc. Manque de chance, la Russie, la fédération russe, a fait appel contre World Triathlon. Et selon le tribunal, World Triathlon a perdu. Du coup, elle se retrouve avec 2 ans. OK, là, pourquoi, à votre avis, je suis énervé par ce cas-là?
Parce que t'aimes pas la Russie.
Il n'en a jamais parlé.
Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une suspension silencieuse. Est-ce que c'est interdit une suspension silencieuse?
Non.
Moi, je dis oui.
Non. Et oui, voilà. Et
c'est
non.
Pas fair play pour les autres. Parce que moi, je sais que sur les Grands Prix, tout le monde parlait « Non, mais si, elle est dopée, on le sait, on le sait. » Et moi, j'étais la première à dire « Bah non, il n'y a rien. » Et donc, il y en a qui ne savent pas comment.
Fait que pour votre information, l'AMA permet les suspensions silencieuses parce qu'il y a des raisons de ne pas donner le nom ou parce qu'il y aurait une enquête plus longue ou ainsi de suite, ou pour protéger la personne, si jamais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de rumeurs de suspension silencieuse en ITU?
Brett Sutton, suspendu par USA Triathlon, mais aucun communiqué et aucune raison dans la suspension, en fait.
C'est ça.
C'est pas pourquoi il est suspendu.
En fait, le problème est que, en tout cas, moi, de mon côté, dans mon milieu, etc., j'ai souvent entendu que dès lors qu'il y a comme une sorte de blessure mystérieuse prolongée, il y a souvent des soupçons. C'est quelque chose qui existe dans plein de fédérations. Et justement, pour stopper ça, World Triathlon peut prendre la décision d'avoir une politique qui dit « on ne fait jamais ça » et que c'est clairement écrit. Parce que là, en plus, ce qui est vraiment douteux, c'est que le cas de Valentina Riasova a jamais été, en tout cas, il n'a jamais été communiqué par World Triathlon, mais on ne peut même pas lire le rendu de l'appel et tout sur le site web du CAS.
Je vois que tu as travaillé ta diction des noms pendant entre la saison 1 et la saison 2, mon cher Alex.
Oh, mais non. J'ai dit, oui, est-ce qu'il y avait une vengeance explicable, etc.? Je ne sais pas. Parce que, tu sais, une fédération russe contre une de ses athlètes, quand on parle d'un pays qui a eu un dopage systémique, c'est quand même assez drôle. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Valentina a fait les championnats russes de triathlon avec un maillot où c'était marqué RTF et non RUS. Ça peut être vu comme un affront parce que RTF, ça veut dire que t'es comme indépendant et que t'as déjà une position face à l'Ukraine. Fait que, est-ce que c'est une vengeance ou ainsi de suite? Possible, peut-être pas.
Allez, Alex, on passe à ton up maintenant.
Mon up, en fait, c'est Sébastien Kienle qui a donné une super entrevue récemment avec le meilleur journaliste de l'univers, soit Tim Emming. J'espère que tout le monde ira lire cette entrevue. Comme vous le savez, Kienle, ancien champion du monde Ironman en 2014, 2 fois titre mondial en 70.3. C'est quelqu'un qui a toujours redonné au sport en ayant une image très positive, etc. Il prend sa retraite sans vraiment être totalement désabusé du sport et il a envie de partager et tout. Puis c'est super appréciable de se dire que oui, tu peux être dans le haut de performance et rester intègre et joyeux. Puis moi, ce que j'ai vraiment apprécié de lui, c'est qu'il n'y a jamais eu de bullshit, pas de fausses prétentions, pas de blessures cachées, pas de fausses promesses pour la visibilité des sponsors, puis finalement, il n'est pas là pour dans la course, ainsi de suite. Il y a un passage qui est assez intéressant où il parle de Sam Laidlaw. C'est super intéressant parce que, il est libre de dire ce qu'il veut dire, que si un journaliste avait dit ça, il y aurait...
Comme notre invité, d'ailleurs.
Oui. Mais en gros, en fait, il explique qu'il a vraiment une difficulté de penser que Sam Laidlaw sera capable de se mettre dans une certaine mentalité pour gagner à nouveau et même défendre son titre mondial. Pour lui, il est comme totalement imprévisible et c'est comme on peut s'attendre à rien. Et l'autre truc que j'ai trouvé vraiment intéressant dans son entrevue, c'est qu'il parle du dopage en disant qu'il y a quelques années, pour lui, 99% du monde était propre et qu'il n'avait aucun doute, mais qu'avec Chartier et qu'est-ce qu'il entend de son entourage et ainsi de suite, il pense vraiment que le triathlon de la longue distance a un gros problème maintenant. Ben maintenant, c'est sûr que c'est facile pour lui de dire ça parce que c'est fini et qu'il va aller s'amuser à faire une sorte de crossfit whatever et des courses de gravel, mais ça veut quand même dire quelque chose et il faut être alerte face à ça.
Eh ben merci pour ce up and down, mon cher Alex. Et on va passer à notre invité de la semaine, notre invité qui est Max Stapley.
Salut Max, Max Stapley, triathlète anglais, on dit grand breton ou anglais Max?
Comme vous voulez, un franco-anglais, australo-français, peu importe, c'est pas grave.
Justement, on va en parler, moi je suis content qu'on te reçoive sur ce podcast. Nous on s'était rencontrés, je sais pas si tu te rappelles, il y a un moment, c'était en stage IATE, donc... stage jeune équipe de France, il y a vraiment un moment, c'était à Vittel. Et je me rappelle qu'on n'avait pas très bien démarré, c'était compliqué de s'entendre. Mais à ce moment-là, tu étais français, tu participais au stage équipe de France jeune. Et puis depuis là, maintenant, tu es grand breton et tu as fait un très long distance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps?
Yes, c'est clair. Moi, je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés. Enfin, notamment, on a fait un atelier de réparage vélo et tout, et tu m'avais bien cassé les couilles parce que je pense que tu m'avais démonté mon bike le plus possible et je t'avais dit ah non mais là t'arrêtes, tu déconnes et tout, et tu m'avais dit ouais je m'en fous et tout, tu répares. Donc je pense que je t'avais fait un peu de résistance. Il avait eu une petite occasion avec du candy up si je me souviens bien.
T'as pas la mémoire courte en tout cas, ça c'est sûr. Et depuis alors, triathlète grand breton, comment ça s'est passé pour toi?
Bah ouais, au final, comme Jeanne, j'ai transitionné de la France à la Grande-Bretagne. Ouais, juste parce que voilà, j'avais quelques soucis de sélection. Notamment, j'avais pas de famille en France, ils étaient loin. Donc, j'étais venu en France à 15 ans. J'ai fait 3 ans au pôle Montpellier, pôle Boulouris. Et ouais, pôle Espoir, et ça se passait pas super bien. Enfin, je vais pas mentir, quoi. Donc, voilà, il y a eu 2-3 trucs et je me suis dit, bon. C'est ça, il y a pas trop de longévité là-dedans et voilà, je me suis dit bon, j'ai un passeport anglais et voilà et on y go et voilà, boum. Et 4 ans plus tard, ça fait plus que 4 ans là maintenant, ça va faire 6 ans. Je suis en équipe d'Angleterre, j'ai couru en World Series, j'ai couru en World Cup en relais mixte, en Super League maintenant en 70-3. Donc j'ai un peu l'impression d'éclore un peu enfin à 24 ans. Même si ça paraît longtemps que j'essaye. Mais voilà, tout vient en bon temps et la vie suit son cours et je prends bien plaisir entre-temps, donc c'est cool.
C'était quoi, si je peux me permettre, qui ne te convenait pas au niveau de l'entraînement en France, au niveau des pôles à Boulou et à Montpellier?
Moi, j'avais jamais vécu en France, en fait, avant de venir en France au pôle, et il y a eu un gros clash culturel. Je pense que ça, c'est faut pas se mentir. Enfin, j'étais très anglo, très confiant, alors que je pense que la culture française est plutôt dans la soumission, enfin dans le respect de la hiérarchie. Et moi, la hiérarchie, quand je voyais qu'il y avait injustice ou je voyais qu'il y avait quelqu'un avait tort, je leur disais quoi. Et je pense que ça convenait pas. Et je pense qu'il y a pas de mal à dire la vérité. Et je pense que la vérité, c'est que ça collait pas. Et ça a pas collé. Et c'était mieux de se séparer. Et c'est, les gens à la Fédé, moi, je les aime bien hein, personnellement. Enfin. Julien, moi je l'aime bien, je le vois encore à fond en eux. Paul, Alière, Michael et Samy.
Je suis pas là, on est avec toi.
Julien de la peine.
Je me souviens très bien qu'à cette époque-là, ça fait plus peut-être, je pense, ou 10 ans, je me souviens, j'avais cette image de toi de quelqu'un de très arrogant et sûr de lui. Et, Et ouais, il y avait vraiment cette arrogance-là qui sortait. Et depuis, bah, moi aussi, j'ai beaucoup évolué là-dessus et je vois plus forcément les choses de la même manière. Est-ce que, t'en as un petit peu parlé, mais c'est une des questions que je voulais te poser un peu plus tard dans l'entrevue, mais est-ce que tu penses que les Français, la culture française, on manque un peu d'ambition ou en tout cas, on a du mal à afficher nos ambitions?
Bah, ouais, je pense que c'est une culture très, encore traditionnelle niveau sport. Enfin, même si tu vois les équipes cyclistes, enfin, on parle de la Cofidis, la G2R, la Française des Jeux. Tu vois, il y a les Thibaut Pinot encore qui sont leaders d'équipe. Tu vois, c'est vraiment très.
Ah non, tu ne dis pas Thibaut Pinot, hein.
Non, mais enfin, les Anglo, ils ont une manière beaucoup plus, je pense, logique et directe de faire les choses, alors que, enfin, c'est basé sur des faits. Alors que je pense qu'en France, on est quand même vachement dans l'émotion, vachement dans la tradition, vachement dans la culture. Et je pense que ça a ses bénéfices. Hein. Enfin, on est un pays très riche, niveau art, niveau musique, niveau littérature. Mais je pense que dans le sport, ça ne nous sert pas tout le temps à grand-chose de parler d'émotion, de parler de tout ça. Tu vois, ça sert à rien, en fait, de dire que tu vois, sur un speech d'avant-course, que ouais, on est les plus forts parce qu'on a la passion, on a la rage. Ça sert à rien. C'est nul, quoi, tu vois. Enfin, moi, ça me fait rire, par exemple, quand je vois la comparaison de Marc Madio à Sean Yates dans la voiture d'équipe derrière Wiggins et derrière Pinot, c'est complètement différent. T'as Yates qui lui dit, OK, Bradley, là, c'est cadence, power, tu vois, genre, c'est du process, c'est du clair et net. Alors que Madio, enfin, on l'a tous vu, il pète les plombs, il est à moitié assorti de la voiture, mais ça peut marcher sur un one shot, mais ça, c'est pas, tu vois, et je pense que c'est la grosse différence, enfin, entre GB Try et FF3. C'est que GB Try sont dans les faits, en fait, tu vois, c'est pas de l'émotion, c'est pas de la, tout est planifié, tout est revu, tout, enfin, comme je t'ai dit, à fond romain, on connaît nos équipes de relais 7-8 mois à l'avance, tu vois, il y a pas de ah ouais non j'ai pas envie de partir troisième,
non, c'est... Tu connais l'équipe de relais où les joueurs à Paris?
Ouais, c'est Jess Learmond, Vicky Holland, moi et un junior, en fait, qui est fort en ce moment, donc Milner en premier.
Et du coup, on peut revenir un peu, si tu veux nous faire, pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas, si tu peux faire un petit bilan de ta saison 2023 ou ton palmarès en général. Et aussi, si tu peux nous expliquer un peu, enfin moi, je te connais parce que je m'entraîne avec toi, pour ceux qui ne savent pas, on s'entraîne avec Paolo. Et donc là, tu es avec lui depuis un an, on va dire, mais tu étais déjà avec lui avant. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu es parti, tu es revenu. Avec qui, tout ça.
Bah ouais, bah déjà, cette année, j'ai quand même, je pense, fait ma meilleure année de ma carrière, entre guillemets. Donc, ça a commencé plutôt mal avec 3-4 chutes, notamment aux Europes et à Fréjus. Je me suis bien retrouvé, bien amoché. Et voilà, je faisais pas trop le malin. Mais après, ça a quand même un peu repris de l'élan à Yeongdo, où je fais mon premier podium en Coupe du Monde. Derrière, à Sunderland, où je fais un podium en World Series Mixed Relay. Après, à la Super League de Londres, je fais 5. Je gagne presque le meilleur nageur, mais je le perds en Arabie Saoudite, à Neom, suite à une maladie, suite au Covid. Mais derrière, je refais un top 10 à Miyazaki. Je gagne le Laguna Phuket et je fais 3e sur le Bahreïn en 3.34. Comme vous avez dit, 3e meilleur début de tous les temps. Et je pense un des meilleurs temps sur 70.3 de l'histoire, si je me trompe pas.
Ah oui, tu n'avais pas la distance.
Et bah oui, voilà, donc je m'entraîne avec Paulo Souza. On est venu cette année, début 2023, avec ma copine Kate, qui a aussi fait une grosse saison.
Un coach étranger, c'est important pour toi ou c'est pas forcément pour ça que tu as fait ce choix-là? Tu t'entraînes avec Paulo Souza,
Portugo-américain, ouais, un peu un blend. Donc en début 2020, en fait, je m'étais déjà joint à son groupe. Mais en fait, après, voilà, logiquement, Covid, je suis rentré en Australie pendant presque 2 ans parce que c'est là où résidaient mes parents. Et bah, le pays était en fait fermé pendant 2 ans et j'ai dû y rester et on n'avait pas le droit de quitter le territoire. Et entre-temps, on a un peu perdu. Enfin, il m'a entraîné, enfin, en fait, pendant tout le Covid et j'ai fait des bons progrès, enfin, surtout à pied. Mais voilà, après, j'ai un peu perdu le fil. J'ai un peu été dans 2-3 environnements différents, mais en fait, pour ensuite revenir. Fin 2022 vers lui pour lui dire écoutez, je pense que ce qu'on faisait pendant le Covid, ça fonctionnait vraiment. Et Kate aussi, elle en avait marre d'être à Leeds, ça faisait 5 ans qu'elle était là-bas, elle voulait un peu de changement, surtout après son titre mondial. Donc on s'est dit bon allez, on fonce. Et moi, sa philosophie d'entraînement, le groupe international, les enfin tous les stages qu'on fait avec le type de personnes qu'il y a dans le groupe, c'est ce qui nous convient vraiment. Et en fait, c'est juste une dynamique de pas se prendre la tête, de se pointer tous les jours, de faire son job, et juste d'avoir confiance dans le processus de performance. Et c'est voilà, c'est il y a beaucoup de science maintenant, pseudo-science qu'on voit sur les réseaux et tout, mais on se rend compte qu'au final, si une performance c'est 100%, déjà de faire le 90% de bien, donc bien dormir, bien s'entraîner, bien manger. Être bien s'occuper de son matos, ne pas tomber malade, ne pas se blesser, t'en fais déjà 5 fois plus que la plupart du monde, quoi. Donc tous les tests lactate, tous les machins, c'est super, mais il faut déjà faire le job, quoi, la majorité du job. Et je pense qu'avec Polo, il est vraiment fort à nous rappeler de faire les choses de base. Et ensuite, derrière, on peut s'inquiéter de prendre les lactates, de quelle chaussure carbone, quelle roue, quel machin. Enfin, ça veut pas dire que j'y pense pas. Ça veut juste dire que Polo, il est super concentré sur le day to day, sur le do your job. C'est sa philosophie et je pense que ça nous convient vachement à Kate et moi. Et c'est ce qui nous a un peu permis de décoller comme ça. Donc, je suis très reconnaissant, enfin, déjà qu'il nous ait ouvert cette porte et qu'il croit, il a cru en nous, quoi, parce que il avait déjà beaucoup de monde dans son groupe et il était pas obligé de faire ça, quoi. Donc, voilà.
Est-ce que là, ta place à Bahreïn, ça change quelque chose pour toi en termes d'objectifs pour 2024, voire 2025?
Bah ouais, clairement. Enfin, moi, j'avais pas trop d'attentes sur cette course. Je m'étais dit, bon, j'ai bien fait à Phuket, mais il y avait pas autant de compétition, tu vois. C'était quand même, ça reste plus un CD qu'un 70.3, donc on verra un peu la distance. Mais franchement, je me suis vraiment plus sur la distance, je me suis plus sur l'organisation, je me suis plus sur le parcours, je me suis plus sur enfin, le vibe, quoi, comme on dit en anglais. Donc, ouais, je pense que qu'en partant sur 2024-2025, j'ai ma qualif en poche pour Taupo. Pourquoi pas faire un peu un programme hybride à la style norvégien, mais pas autant. Enfin, je parle pas d'Ironman, enfin, loin de là. Mais pourquoi pas faire 2-3 70.3 à l'année, la Super League et de l'ITU. Enfin, je pense pas que, avec les méthodes d'entraînement et de la manière comment on s'entraîne avec Polo, c'est pas impossible, c'est pas inachevable. Enfin, je pense qu'il suffit juste de voyager avec son vélo de chrono, de bien faire 2-3 heures dessus par semaine pour rester bien adapté à la position. Et je pense que c'est totalement atteignable. Donc, pour répondre à ta question plus directement, je pense que voilà. Je pense que mon objectif, c'est de continuer à progresser en ITU parce que je pense que ça forge en tant qu'athlète, enfin, niveau puissance, niveau intensité. Et derrière, un peu de mêler ça à de la longue distance et de la Super League pour brasser de la maille. Hein. Je vais pas vous cacher ça. Il faut bien gagner sa vie. Hein. C'est pas en ITU qu'on va la gagner. Hein. Donc, justement, t'en
es où à peu près avec la fédération britannique? Parce que je pense que dernièrement, il y avait les noms qui sont sortis, ceux qui ont le support et tout, et j'ai pas vu ton nom quelque part.
Ouais, bah, j'ai pas fait les critères. Hein. Écoutez, c'est clair et net. Les gars, ils sont clairs, comme je vous ai dit au début de l'émotion, et pas grave. Pas
de... Et là, est-ce que t'as quand même quelque chose ou c'est non. Blanc ou noir?
Non, c'est blanc ou noir, j'ai rien. C'est pas grave, je vais me débrouiller, mais j'ai du support d'autre part, donc c'est bon.
Oui, je pense que globalement, en fait, juste pour rappeler le cadre, c'est que British Triathlon, en fait, propose un programme d'aide aux athlètes avec des athlètes qui sont mis sur une liste et ces athlètes-là reçoivent un financement. Est-ce que tu... Donc, voilà, et la question d'Amantine, c'était quels sont les critères justement pour entrer sur cette liste pour le triathlon, puisqu'il y a aussi les paratriathlons.
Enfin, ouais. Déjà, pour leur. Enfin, je ne vais pas totalement les démonter, c'est juste. C'est clair. Les critères sont clairs. Tu fais les critères, tu passes. Tu ne les fais pas, tu ne passes pas. Mais je ne les ai pas faits. Je les ai ratés pour 6 secondes. 10e à Miyazaki, à 6 secondes de Schaumburg. Je ne les ai pas faits. Voilà, bim, ils n'ont même pas discuté. Et les critères, c'est qu'il y a différents niveaux. Donc, il y a E, D, C, B, A. Et moi, je visais le niveau D, donc j'avais fait podium en Coupe du Monde, donc j'avais un moitié, il me fallait juste un top 8, donc il me fallait deux top 8 en Coupe du Monde, et j'ai fait un podium et 10e. Donc, voilà. Mais il y a plein de critères différents, donc des podiums en World Series, et des podiums en Mixed Relay, des podiums en, tu vois, enfin des top 10, des top 20, des top 15, enfin je connais pas exactement tous les barèmes pour chaque niveau, mais en fait c'est progressif de E à A. Et A, c'est genre médaille olympique. E, c'est peut-être médaille continentale. Donc, vous voyez un peu la progression et en termes de chaque niveau, progressivement, l'argent devient de plus en plus important. Sauf quand on gagne plus au-delà de 42 000 pounds par an, on n'a plus le droit à de l'argent. Donc, c'est un peu inutile, en fait. Une fois que tu es très fort, tu gagnes plus de 40 000 euros, on ne te paye plus ton argent, en fait. Donc, c'est un peu un programme redondant, en fait. C'est un peu pour les gens qui se développent. Mais une fois que tu es développé, tu te rends compte que, par exemple, Georgia, ça fait... Taylor Brandt, ça fait 7 ou 6 ans. Enfin, je parlais à Alistair aussi, qui sont sur le programme, mais ils perçoivent zéro argent.
Ah oui, j'allais dire, tu peux être nommé dessus, mais rien à voir, parce que même une baisse ou compagnie, rien qu'avec...
Il faut aussi dire que les gars, ils ne payent pas pour les transports sur les World Series. Donc, Georgia, elle a 2 000 euros par an pour aller sur les courses. Et par exemple, Kate, cette année, elle a payé pour aller sur Yokohama. Donc, tu vois, quand je dis un peu l'ITU, c'est pas là que tu vas gagner ton argent. C'est pas parce que je cherche à... Je dis tout simplement l'effet financier, quoi. C'est, par exemple, une course à Yokohama, le voyage, il va te coûter 4 000 balles. Et quand on ne paye rien... Tu la sens passer, quoi. Donc, voilà.
En comparaison, en France, il y a le même fonctionnement avec les niveaux de classification, avec des critères à réaliser de performance et un accompagnement financier qui va évoluer en fonction du niveau sur lequel vous allez être. En revanche, la petite différence par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que même quand tu es niveau 1 en France, de ce qui est l'équivalent de niveau A pour vous, bah, tu continues à avoir un accompagnement financier de la fédération.
Ça se passe comment tes questions père de famille, là, comme genre tu perds ton karting, etc. Est-ce que quelqu'un de la fédération t'écrit pour te dire t'as pas d'argent, mais on pense toujours à toi, ton projet, ou ainsi de suite, ou t'es juste dans le néant total, puis s'organise-toi? Parce que tu sais, on peut aussi se questionner si du coup tu passes en non prioritaire pour l'accès au WTCS et tout.
Non, sur ça, moi j'ai. Donc c'est drôle parce que d'un côté, j'ai pas les critères pour l'argent, mais j'ai un des critères les plus hauts pour World Series. Donc les seuls qui ont fait les critères pour World Series à mon niveau cette année, c'est Alex, moi, je suis deuxième en termes de priorité. Alexis est numéro un parce qu'il a gagné des World Series. Et moi, je suis numéro deux égal avec Milner parce qu'on a tous les deux fait des podiums sur World Cup. Mais derrière, les gars comme Johnny, moi j'ai priorité sur Johnny. Parce qu'il a rien, il a pas fait de critères l'année dernière. Et j'ai priorité sur Dan Dixon et sur Dickinson et sur Willis et sur tout le monde. Parce que mais du coup, c'est drôle parce que d'un côté, j'ai pas les critères pour avoir du financement, mais j'ai les critères pour aller sur les courses. Donc, je peux faire toutes les courses que je veux. Et là où il y a un relais, ils vont me le financer. Mais je peux pas avoir d'argent via le karting parce que j'ai pas les critères. Donc, c'est très très compliqué parce que on pourrait y passer des heures un peu décortiquer les critères de ci, les critères de ça, les machins. Mais voilà, pour résumer, je peux aller sur toutes les World Series, je peux aller sur, si j'ai le ranking, je peux aller sur toutes les World Series avec priorité parce que j'ai un des critères les plus hauts, mais je peux pas percevoir de l'argent mensuel parce que j'ai pas le double critère.
Et alors, en parlant de critères, justement, Max, est-ce qu'on peut parler des critères des JO? Savoir déjà quels sont les critères. On connaît les critères français, mais on ne connaît pas les critères british. Nous en parler et savoir toi où tu te positionnes par rapport à cet objectif.
Ouais, déjà en 2024, il n'y a pas de critères. C'est totalement là maintenant ouvert à la discrétion. On a deux qualifiés, donc Alex et Beth. Beth qui n'était pas médaillée olympique, elle avait besoin de faire deux podiums. Et deux podiums à Test Event et Pontevedra. Alex, il avait que besoin d'en faire un, ce qu'il a fait à Paris. Donc voilà. Donc Kate, par exemple, qui fait podium à Pontevedra et top 8 au Test Event, n'est pas sélectionné et n'a pas été sélectionné et retenu sur discrétion parce qu'ils avaient l'option de le faire, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Et en gros, maintenant, ça va être un shootout à 3 à Cagliari et ils ont refusé de leur donner des critères concrets. Donc ça va être totalement... un peu décidé sur le volet, quoi. Enfin, donc,
chez les hommes?
Chez les hommes, c'est la même chose. Totalement, on n'a aucune indication.
Et vous avez une voix clé?
Non.
Non?
Non, mais nous, je pas le troisième critère chez les GBR, parce que j'avais lu les modalités, c'est soit montrer sa capacité à pouvoir aider une personne à obtenir une médaille, donc en l'occurrence, Alexis ou Beth Potter chez les femmes, ou montrer sa capacité à... être performant et faire la différence sur le relais. Il me semble que c'était ça, Max.
Yes. Donc voilà.
Les directions qu'ils t'ont donné.
Entre guillemets, moi, je sais que je pense loin au terme. Enfin, loin. Je pense que je suis pas une des priorités à sélectionner. Je pense qu'ils préféraient prendre Johnny. Enfin, ils veulent le prendre. Mais voilà, il faut se montrer capable d'être fort en relais et fort pour ramener quelqu'un, quoi. Et moi, je pense avoir fait les deux l'année passée. Donc moi, si je leur parlais, je leur dirais, écoutez, les gars, enfin, Johnny, il va pas attendre Alex. Hein. Enfin, les gars, vous êtes, tu vois. Et ouais, en relais, voilà.
Que tu as fait apporter Benrad par la grande finale où tu as essayé d'aider Alexis à revenir sur le premier groupe. Bon, malheureusement pour vous, vous n'avez pas réussi, heureusement pour nous, mais...
Ouais. écoute, à Pontevedra, c'était pas quelque chose qui était planifié, c'était quelque chose que j'ai un peu décidé sur le deuxième tour. Je me suis dit, mais il est où ce gars? Tu vois, je regardais à gauche, à droite, derrière, devant, je voyais personne. Et je me suis dit, putain, mais il y a Hayden, il y a Christian, il y a Léo devant. Et je me suis dit, bon, allez, je vais l'attendre, hein, on va tenter le tout pour le tout. Et mais on était trop loin, quoi. On a passé 6-7 tours à pousser 450 watts, ça n'a rien fait. Il a complètement niqué le truc, hein. Enfin, c'est clair. Donc,
Et quand tu fais ça, tu penses à la sélection derrière ou tu fais vraiment ça pour être sympa avec Alex? Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te sacrifies?
Pontevedra, c'était spécial parce que je suis passé de la waitlist où je pensais pas vraiment passer. Et le soir d'avant, je me suis tordu la cheville où je savais même pas si je pouvais courir. Donc, quand j'étais dans la course et je ne l'ai pas vu, je me suis dit, putain, mais il a lâché le truc à Edmonton. Il a lâché le truc l'année dernière à Abu Dhabi. On va quand même essayer de le faire gagner quelque chose pour une fois, ce gars. Et ça n'a pas fonctionné. Donc.
Il a gagné le classement, il a gagné le lap.
Ouais, mais voilà, ce serait cool d'avoir un titre mondial, quoi. Attends, trois fois de le perdre sur la dernière course, c'est dommage, quoi. Donc, voilà.
Et juste pour revenir sur les jeux, là, on parlait de qui peut être qualifié ou quoi. On est d'accord que pour l'instant, la Grande-Bretagne, vous avez 3 dossards chez les filles et seulement 2 chez les garçons. Ce serait possible, hypothétiquement, d'en avoir un troisième ou c'est...
Bon, hypothétiquement, il faudrait que quelqu'un gagne 3 World Series, mais c'est fini, quoi. Je leur ai dit, c'est over, les gars. Ils sont là, ouais, on va essayer d'aller chercher là, mais je leur dis, c'est fini. Allez commencer en 2022 si vous voulez les dossards. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. C'est ça le problème d'avoir un sport qui est gouverné par des fédérations. Tu te rends compte qu'en fait, les fédérations, c'est bon à sélectionner des gens. Tu vois, le basket ou le foot, c'est pas la FFF qui sélectionne l'équipe pour la Champions League. Tu vois, c'est pas la FFF qui fait la Ligue 1 ou la Premier League. Et sans la privatisation, moi, je vois l'avenir du triathlon vraiment négativement. Enfin, le triathlon sur le court distance.
Juste avant de parler de PTO, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'Australie parce que si tu as écouté un peu le podcast, je suis assez. En tout cas, j'ai de la tristesse sur ce qui est en train de devenir l'Australie, point de vue triathlon, parce que c'est plus du tout les champions qui étaient avant. On a vu des talents, genre Jacob Burswissel, qui est comme l'ombre de lui-même et tout. Toi qui as vécu un peu dans cet entourage-là, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Tu dois avoir un jugement, j'imagine.
Ouais, bah, encore une fois, c'est une faute fédérale. C'est une fédération qui avait un gros budget, enfin, je pense, 4 millions à l'année, dollars australiens. Et qui ont décidé, la meilleure façon d'avoir de la performance, c'est pas de donner de l'argent aux athlètes ou d'investir intelligemment, c'est d'employer plus de staff. Et ça, c'est jamais la solution. D'employer du staff, d'employer des nutritionnistes, des psychologues, ça sert à rien. C'est, tu vois, c'est quand t'as des athlètes qui ont pas assez d'argent pour partir en Europe ou pas assez d'argent pour courir sur des machins, voilà, on met Joel Filliol en poste, 200 000 balles à l'année, bam, voilà, cool. Alors qu'il a encore son groupe international et tout derrière, il est sympa, Joel. Alors moi, je l'aime bien, hein. C'est rien de personnel, mais c'est juste que. C'est un mauvais investissement fédéral et tu te rends compte qu'au final, encore ceux qui souffrent, c'est les athlètes.
Parce qu'on rappelle, quand on nous écoute, Joël Filliol, c'est un entraîneur international qui n'est pas australien, mais qui avait été mandaté par l'Australie pour être entraîneur et il a été démis de ses fonctions il y a milieu d'année, je crois, c'est ça.
Ouais. Et par exemple, des personnes comme Copeland et de Edgeland qui ont dû quitter leur coach pour aller vers Filliol, quand ils se barrent, ils n'ont pas de coach, ils n'ont pas de financement et ils sont coincés en Europe. Super. Tu vois, donc encore une fois, lui, il est capable d'aller continuer, d'entraîner, de faire de l'argent, mais les athlètes, eux, ils se retrouvent sans rien. C'est toujours la même chanson, en fait. C'est que quand quelque chose ne marche plus ou quand un projet fédéral s'écroule, ceux qui souffrent, c'est les athlètes. Et voilà, moi ça va paraître vachement négatif, mais quand je cours en Super League et que je vois que l'organisation, il y a de l'argent, il y a de l'investissement, il y a de l'avenir, il y a du projet, il y a, tu vois, on écoute les athlètes, c'est tellement différent de revenir dans un cadre ITU et tu te sens sous pression, tu te sens observé, opprimé. Et voilà, derrière, tu vas faire un, je sais pas, chez les hommes, la densité est tellement incroyable. Tu vas faire dixième ou je sais pas quoi, à 30 secondes du podium, tu prends ton 1000 balles et tu as dû payer pour ton voyage. Et on te dit, bah, en plus de ça, tu n'as pas de sponsor parce que tu n'as pas gagné. Et tu vois, ça paraît vachement négatif, mais c'est la réalité du court distance. Alors que voilà, au moins, un Ironman, tu gagnes quand même une somme pas mal. Tu peux avoir des sponsors. Tu as une organisation qui fait des beaux parcours avec des age groupers qui te donnent leur respect. Et en Super League, c'est la même chose. C'est que t'es live on TV, t'as des sponsors, t'as des gens qui tournent sur les events qui sont, tu vois, qui ont de l'argent et tu peux un peu faire du biz et un peu te débrouiller. Alors qu'en ITU, vraiment, on te dit, écoute, c'est comme ça, Coco, et si t'es pas content, ben, on te sélectionne pas et tu peux, voilà, tu peux dance, tu vois. Le nombre de gars qu'on engage, c'est fou, quoi.
Par rapport aux autres circuits parallèles, t'en as un petit peu parlé. Nous, on a pas mal discuté de la PTO sur la saison précédente sur le Trijlo et de ce qui allait se mettre en place sur les CTO, etc. Et bon, là, on est un petit peu en attente de voir ce qui va sortir, mais pour l'instant, il y a pas grand-chose qui sort. Toi, c'est ce genre de circuit-là, est-ce que c'est des courses qui pourraient t'intéresser? C'est quoi ton regard un peu sur la PTO où, bah, là, pour le coup, il y a de la moula, il y a de l'argent.
Ouais, c'est clair, il y a de la moula, mais ils l'ont tout gaspillé. Les gars, ils avaient 40 millions. Ils l'ont dépensé 10 millions en une année, il leur reste que 10 millions. Donc, c'est, je sais pas.
Il y a quand même un danger là-dedans parce que ça se trouve, on peut espérer que ces accueils-là, comme Super League et PTO, réussissent. Mais pour le moment, il n'y a pas d'avancée tant que ça. Fait que peut-être que ça va disparaître du jour au lendemain.
Ah ouais, c'est clair que la PTO, elle pourrait partir. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est un peu. C'est un circuit qui puisse. Je sais pas, en français, je perds mes mots des fois, mais tu vois, create value. Enfin, tu vois, il faut, enfin, c'est comme tout. S'il n'y a pas les clics, s'il n'y a pas les sponsors, ça perd complètement son intérêt. Et si tu parles à un gars comme Chris McCormack, tu te rends compte qu'en fait, il faut vendre. C'est du capitalisme au final, le sport. Et on est dans le game de entertainment, sports entertainment. Et si tu entertain personne, t'as pas de sport. Et c'est là que le triathlon, ce court distance, on est dans la merde. C'est quand on a. Il y a qui regarde les World Series? Il y a 2-3 fans, nos grands-mères, nos parents.
Ah, je compte au moins pour 100 personnes, moi.
Les coachs, tu vois, c'est un peu cool. On a fait quoi sur les. Elle est où la progression de la World Series sur les 10 dernières années? On a perdu Madrid, on a perdu Londres, on a perdu Stockholm, on a perdu Kitzbühel.
C'est les meilleurs
parcours de l'histoire du sport, ils sont gone. Et on fait quoi maintenant? On fait des allers-retours en Sardaigne sur un parking avec personne.
Ah, mais attends, on a 16 Coupes du Monde.
Ouais, 16 Coupes du Monde à Pelzouille, machin, les mecs, ils parlent de sustainability. Ah ouais, d'un côté, on va être à Hong Kong, derrière, on part en Amérique du Sud. Mais couilles, ouais, les gars, s'il y avait Kim Jong-un qui leur donnerait 10 000 balles pour aller à Pyongyang, ils le prendraient, quoi. C'est n'importe quoi. Mais ouais.
Ça me vient, Max, tu devrais être chroniqueur pour le trichot.
Par contre, ça t'a pas dérangé d'aller lire
le média. J'allais dire, ah, moi, je suis clair, hein, Je dis bonjour au prince de Bahreïn, je vais à l'Arabie Saoudite, je m'en fous. Moi, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je suis un professionnel et ça bosse. T'as besoin de bosser, t'as besoin de faire de l'argent et c'est eux qui payent. S'il y avait un Français qui mettait 1 million sur une série, je courrais en France, mais ça n'existe pas. Donc, je pars en Arabie Saoudite. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça, essayez d'être triathlète et essayez de gagner de l'argent. C'est pas possible. Les clubs de D1, ils perdent de plus en plus d'argent. Et voilà, Jeanne et tout. Enfin, moi, l'Arabie Saoudite, moi, j'ai. Voilà, c'est clair. Je sais ce qui se passe, hein, je me voile pas la face. Mais d'un côté, c'est eux qui mettent l'argent et c'est là que moi j'ai besoin de gagner de l'argent, sinon j'arrête et je pars bosser dans un job normal, quoi. Donc,
t'as parlé un petit peu du Grand Prix là. Tu seras dans une équipe en France en 2024.
Ouais, je cours à Saint-Jean-de-Mont là depuis 2018, qui m'ont vraiment très bien aidé dans mon projet. Et sans eux, enfin franchement, j'en serais nulle part. Donc, big up Saint-Jean-de-Mont, merci François. C'est vraiment un club qui m'a aidé, donc je leur dois vraiment, franchement beaucoup. Et voilà, moi c'est un autre truc que je trouve dommage. La D1, on a la chance d'avoir un circuit tellement unique où des gens de tout le monde entier veulent courir. Et ils sont où les lives? Ils sont où l'évolution, les médias, les
rires? Vraiment, tu veux faire partie du show. Je pense que là, tu valides encore une case.
Donc, moi, tu vois, j'ai un peu la main sur les Australiens, les Anglais. Ils me demandent, ouais, tu connais une équipe, tu connais un manager, machin. Et Moi, tu vois, j'en ai aidé 2-3, mais tu te dis, tu as la chance d'avoir un circuit tellement incroyable, tellement avec une riche histoire. Tu as Brownlee Gomez, tous les Hauss, les Vidal qui ont couru dessus. Ça a vraiment une histoire qui bronze, ça a une histoire. Les Julien Pousson qui ont couru, tu vois, les courses comme, yep. comme Embrun et tout, ça a disparu. Et tu te dis, mais quel gâchis, quoi. Non, mais franchement, tu vois, c'est incroyable. Mais enfin, encore une fois, faute fédérale. La fédération, ce n'est pas fait pour faire du business. Restez à sélectionner vos équipes olympiques européennes et world et laissez et privatiser les circuits. Parce que sans privatisation et investissement, ça va couler. Et c'est ça coule. C'est la réalité. Les gens, ils disent « Ah, t'es négatif, machin », mais le foot, s'il n'y avait personne qui regardait, personne, tu vois, il n'y aurait plus de foot. Il n'y aurait plus de Premier League, il n'y aurait plus de rien.
En fait, ça ne coulera pas parce que le comité olympique met tout le temps de l'argent.
Il n'y a pas de business model. Mais l'autre jour, par contre, Marisol a ouvert une nouvelle office à Lausanne. Nickel. Les athlètes, aucune growth financière, mais on a une office à Lausanne. Moi, je m'en fous de l'office. Moi, je n'y ai jamais là-bas. Bon, je m'en bats le coup. Tu vois, payez-moi plus, payez Alex plus, payez Bef plus. Tu vois, faites en sorte que les athlètes ils puissent aller sur les courses sans devoir se demander comment est-ce que je vais financer ma saison. Et derrière, en plus, les gens, ils ont l'audace de dire, oh, tu vas à la Bahreïn, tu vas à la Saoudi. Ouais, j'y vais parce que j'ai pas de fric, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois?
Question prono. Paris 2024, qui gagne chez les hommes?
Alexis.
Alors, en fait, tu peux plus faire partie du pré-show, je crois. Podium, allez, podium.
Alexis, Hayden Wild, Christian Blumenfeld.
Pas de français.
Dieu. En France. Hein.
Attends, c'est ça la spécialité des Français, c'est de gagner l'année avant.
Elle a pu le mettre dans la canne.
Attends, c'est avant.
T'inquiète pas, moi. Attends, on va faire plein de reportages, tout le sport, da-da-da-da-da, machin, et là, boum.
Non, mais il faut surtout pas que tu t'inquiètes parce que le DTN dit qu'avec des sourires, il serait très content. Donc nous, on n'a pas besoin de médailles, tu vois. Si les athlètes ont le sourire, c'est principal chez nous.
Et chez les femmes?
Kate Wolf, number one. Ça fait 2 ans que je vous le dis, les gars. Hein. On me disait, ouais, t'es ouf et tout. Pontevedra, elle est passée à 18 secondes. Hein. T'inquiète.
Allez, Kate, ensuite.
Kate Wolf, numéro 1. Jeanne Leher, numéro 2. Et allez. Beth Potter, numéro 3. Allez, je lui donne.
Allez, pas d'américaine.
Le relais, les Zélandais.
Allez, le relais.
Relais, British Triathlon, number 1. Germany 2 et USA 3.
Ah ouais, toujours pareil. Sur le relais, la France, normalement, au moins une médaille de bronze, ça serait décevant, mais quand même.
On n'avait pas dit l'or à Tokyo.
Maintenant, ça fait 10 ans que ma passion, c'est de te faire mentir, Max, donc on se reverra après Paris.
Non, mais on se reverra à Paris après l'épreuve, d'ailleurs, pour aller tous boire un coup dans un bar pour fêter les médailles de chacun et chacune, voilà, et faire un bilan des pronostics.
Pour relais, hein.
Bon, merci en tout cas, Max, pour en parler, pour cette interview. C'est vraiment sympa de t'avoir. Et puis, nous, ça nous permet aussi d'avoir un point de vue un peu plus anglo-saxon que ce qu'on a d'habitude et un peu moins européen, on va dire. Et merci pour ta disponibilité. Bravo pour ce que tu as fait cette saison. Et puis, voilà, si vous voulez suivre Max Stapley, tu vas donner ton blaze sur Instagram. Je sais que tu adores ça.
@MaxStapley, Max_Stapley. Sur Strava, Max Stapley. LinkedIn, Max Stapley.
Merci Max pour ton temps et pour cette interview. Là, on va passer au quiz et ce que je te propose, c'est de rester avec nous.
Cool, je reste.
Allez, on va partir tout de suite sur le quiz. Alors, c'est la reprise. Hein. J'espère que vous avez bien révisé. Et on va commencer tout de suite avec un « je suis ». D'accord ? Donc, « je suis une ville ». Pour commencer, vous allez devoir trouver une ville.
Toulouse.
Attention. Situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà, mais la
capitale européenne des villes d'eau, c'est à Vichy.
Mais laisse-moi, c'est
une question de triathlon.
Pas les championnats d'Europe.
Ouais. Eh bien, c'est parce que Vichy accueillera les championnats de France de triathlon longue distance en 2024.
Et les championnats d'Europe.
Ouais, c'est Amandine qui gagne. Allez.
Écoute ton enregistrement, pas du tout.
Ah, et ça commence, saison 2, les premières embrouilles, quoi. Allez.
Bon, si je n'ai pas plus,
j'ai plus de mal.
Alors, deuxième question. Quel fut le dernier club avant Poissy à avoir remporté le titre de champion de France des clubs chez les femmes?
Sartrouville.
Metz.
Non.
Ah, champion de France
des clubs. Non, Sable Vendée.
Non.
Lagardère.
peut-être.
Non, Beauvais.
Beauvais, voilà.
Voilà, Beauvais, mais ça fait 15 ans que ça n'existe plus.
Avec Delphine Pelletier, Charlotte Morin. Ouais, j'ai que ça, je voulais faire le malin, mais j'en ai que deux.
On passe à la troisième question. Donc, chacun va devoir citer un vainqueur de PTO.
Oh, voilà,
en 2023, chez les hommes ou chez les femmes, et on va commencer par Max, vu que c'est l'invité. Tu dois nous donner un vainqueur en 2023 d'une PTO, et si vous trouvez tout, bah, on partira sur 2022.
Max,
allez, c'est bon. Jeanne.
Blumenfeld.
C'est bon.
C'était mon seul.
Amandine.
Bah ouais, bah oui, merci. Gentil.
C'est bon. Julien.
Yann Frodeno, de Gotts.
C'est bon. Alex.
Là, c'était pas. Il y a eu combien de courses météo? Il y en a eu deux?
Il y en a eu trois.
T'as une autre femme, fait que ça oh, doit être.
Il reste deux femmes à trouver.
Ça doit être une Allemande, Anne Haug.
C'est bon. Max, c'est de nouveau à toi.
Tyler Nebb.
C'est bon.
Putain, je voulais le dire.
Alors, on enchaîne maintenant sur. C'est les bonus podium Ibiza pour compliquer un petit peu la chose.
Charles, c'est mon tour.
Mais non, c'est moi.
Alors, lui, c'est Charles. Pour... c'était Amandine, c'est... non? C'est qui?
Non, non, c'était moi.
Ah ouais, Yann, Charles. Charles, c'est bon. Troisième place. Amandine.
Hung.
Ah, ok, c'est pas bon. Amandine, tu sors. Julien.
Jason West qui fait deuxième à Ibiza.
Il est en train de lire la joie sur son écran. Il est en train de lire.
Tu sors aussi, mon cher oh. Julien. Alex.
Il est bien, Julien.
Jason West, tu fais pas deux à Pitio Ibiza.
Tu fais pas deux. Non, non.
Blumenfeld.
C'est bon. À toi, Max.
Gentle qui fait deux.
C'est bon. Jeanne. T'as pas le droit de chercher, Jeanne. Hein.
Je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Attends, je vais dire un nom pif. Donc là, il reste un gars et une fille.
Ça, je peux pas t'aider. Là, ça, là,
on... Oui, si, on a dit deux gars, je sais pas, Emma Pallant.
Non, c'est perdu. À toi, Alex.
Pour le moment, c'est Max qui mène.
Denis Chevaux.
Là, c'est perdu. Il restait Ditlef à trouver.
Ah ouais, pour
se dire.
Et chez les filles, tout le monde a été trouvé. C'était Gentle, Charles, pour les deux.
Ah ouais.
On lui a laissé à Max parce qu'il vient d'arriver. Et... Ouais. Voilà, fair play, le fair play à la française.
Allez, en quatrième. On a un nouveau circuit longue distance qui va arriver en France avec des points attribués à des professionnels. Il y a quatre courses qui composent ce circuit. Quelles sont ces quatre courses, Alex?
Mais c'est Julien, il a dit oui de la tête, il doit savoir et on lui a donné les infos. C'est triche.
Là, faut attends, dire... Julien Pousson.
Chaperon-Royan.
C'est bon.
J'avais lu sur ma vie.
Amandine, c'est à toi.
Jeanne, va pas chercher sur Internet, tu triches.
Je peux pas te montrer, mais...
Il reste trois courses à trouver. Allez, il te reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, tu es out, Amandine. À toi, Jeanne.
Vieux Boucault.
Non, c'est... tu es éliminé.
Mais il n'y a que Julien qui a eu cette info. C'est de la grosse triche, là. C'est vrai qu'on m'a enlevé mon point de vichy, alors.
Mais excuse-moi,
Max,
de la chaîne du triathlon. Voilà.
Max, c'est à toi.
Avec des entraînements.
Le triathlon de Marseille.
Eh bien, non. Bien, non. Toi aussi, il y a éliminé. Alors, il y avait Lacanau, Montauban et Aubernais, donc le Gorilla Man.
Aubernais ?
Oui, le triathlon d'Aubernais en Alsace. Allez, une question rapidité pour finir. C'est la dernière question. C'est une question rapidité, attention. Hein. Quel est le Français le mieux classé au classement PTO maintenant que ça s'est terminé avec
la Mathis Marveille. C'est Genève qui remporte le point. Bravo, Jean.
Ah oui, il était à mon point.
Oui, bravo.
C'est le trichot, donc c'est un peu en exclu. On a Kate Both avec nous sur le trichot.
Quel son premier podcast en français. Allez, vas-y.
You speak French or English?
Français.
C'est quoi ton classement, Kate? Est-ce que tu peux nous donner ton classement aux Jeux Olympiques de Paris pour 2024?
Hayden, Alex, Dorian.
Ouais.
La lourde.
Ah oui.
Chez les femmes?
Kate Wolf. Kate, the same.
You have to build in it.
Cassandre et Jeanne Lair.
Yeah.
C'est beau.
Relay.
Grande-Bretagne. Voilà. USA, États-Unis et.
C'est France.
Germany.
Voilà, donc c'était en exclusivité. On était avec Kate Wolf, donc la compagne de Max, qui l'a rejoint sur le podcast et qui a fini notamment deuxième à Pontevedra et sixième mondial. Voilà, un petit peu pour l'intervenante que vous venez d'entendre. Ça nous a laissé avec un point chacun, ça.
Non, moi j'en ai deux si on relie bien l'enregistrement. Merci.
Eh ben, on va quand même donner le point à Max parce que c'était lui l'invité exceptionnel quand même qui a accepté de jouer à ce quiz. Merci en tout cas pour cette reprise. Merci Max de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce trichot.
Merci.
Très bonne soirée. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ne suivez surtout pas les pronostics que vont donner, que vous ont donné les deux Anglais là, à l'antenne. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt tout le monde. Salut.
Salut. À ciao.